Une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une semaine d'actualité et merci de votre fidélité. Comme chaque samedi, avec la rédaction, nous allons revenir sur 7 jours d'information, un rendez-vous hebdomadaire que vous pouvez podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Cette semaine, notre invité est un universitaire, directeur de recherche émérite au CNRS, ancien directeur de l'Institut français de recherche sur l'Iran. Bonjour Bernard Ourcade.
Bonjour.
Vous publiez chez Armand Collin « Géopolitique de l'Iran, les défis d'une renaissance ». Alors vous parlez de renaissance, en quoi la situation de l'Iran aujourd'hui est-elle une renaissance ?
On parle souvent du retour de l'Iran, et je ne pense pas qu'il y ait un retour de l'Iran. L'Iran a toujours été là, et retour signifierait que c'est le retour d'un système ancien. Or, un point est important, le 14 juillet dernier 2015, où l'accord sur le nucléaire a été signé entre l'Iran et les grandes puissances, on peut dire que le Shah d'Iran est mort ce jour-là, en quelque sorte. La République islamique est née ce jour-là. Le Shah est parti en 79. Il a fallu 37 ans de gestation pour que la République islamique soit reconnue. Autrement dit, l'Iran revient, mais c'est une renaissance avec des choses différentes, avec une structure différente, un logiciel différent. L'Iran d'aujourd'hui n'est pas l'Iran d'il y a 37 ans. Et donc, on aurait tort de considérer que, eh bien, on revient aux bonnes vieilles connaissances d'il y a 37 ans, on prend les mêmes modèles et on les nettoie un petit peu et on recommence. Non. Il faut savoir que on ne connaît pas l'Iran. J'ai fait ce bouquin qui est une réédition complète d'un livre publié il y a quelques années et je me suis rendu compte qu'il fallait tout revoir à zéro. Parce qu'il y a 10 ans, ce qu'on pouvait dire de l'Iran est différent de ce qu'on peut dire aujourd'hui.
C'est une renaissance pour l'Iran, mais aussi pour la communauté internationale qui regarde l'Iran.
Tout à fait. Parce que le logiciel nouveau de la relation avec l'Iran, il est sur la table, le logiciel est nouveau. Les Iraniens ne connaissent pas ce logiciel, il est là, mais on ne sait pas comment il marche. Eux ne savent pas, nous non plus ne savons pas comment ça fonctionne. Et donc les entreprises qui veulent repartir sont toutes reparties en Iran immédiatement. Le 16 juillet, tout le monde s'est précipité, le MEDEF est reparti à Téhéran. Enthousiaste, 80 millions d'habitants, pétroliers, beaucoup de choses positives. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que ce n'est pas aussi évident que ça et qu'il faut aller lentement en Iran. Si on veut aller loin en Iran, il faut aller lentement et avec prudence.
Alors, il y a eu plusieurs tentatives d'ouverture dans le passé avec des présidents de la République modérés en Iran. Donc, en quoi cette présidence actuelle, Rouhani, est-elle différente selon vous ?
Mais justement, d'abord que 37 ans ont passé depuis la République islamique, dont les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont fait la révolution il y a 37 ans. Et deuxième chose importante, il y a eu une coïncidence entre le changement politique aux États-Unis et en Iran. Jusqu'à maintenant, il y avait des volontés. On ne peut pas, au niveau international, vivre sans les États-Unis. Bon. Donc, tout le monde a cherché à se réconcilier. Et chaque fois, quand les Iraniens étaient d'accord, c'est les Américains qui n'étaient pas d'accord et inversement. Aujourd'hui, l'arrivée d'Obama au pouvoir, qui a tendu la main au monde musulman et à l'Iran notamment, a été un événement essentiel. 2-3 ans plus tard, c'est les Iraniens qui sont en phase et enfin on peut discuter. Ça, c'est un élément conjoncturel extrêmement important. Autre chose aussi qui est forte, la crise économique. Les sanctions sur le nucléaire ont été une pression très forte sur l'Iran. Et la nouvelle jeunesse iranienne se rend compte qu'elle a été déconnectée de la mondialisation. Le monde est passé devant eux et eux sont restés en retrait alors qu'ils le pouvaient. Autre chose aussi, M. Rouhani, président de la République actuelle, on dit c'est un réformateur. Non, c'est pas un réformateur, c'est quelqu'un d'intelligent et qui connaît bien son pays. Lui, il connaît bien le pays. Il connaît bien le milieu islamique, le milieu des gardiens de la révolution, le milieu de la sécurité, le milieu des renseignements, de la police, de l'économie, de la culture iranienne, de l'ouverture internationale. Il a toutes ses cartes en main et il sait comment jouer avec cela, avec beaucoup de prudence et d'intelligence. C'est ça qui est nouveau aussi.
Nous reparlerons de tout cela tout au long de l'émission. Bernard Ourcade, si vous le voulez bien. En attendant, je vous propose d'ouvrir cette semaine d'actualité avec les Jeux Olympiques de Rio au Brésil. La cérémonie d'ouverture a eu lieu cette nuit. Un moment très attendu, le défilé des délégations et dans celle du Niger, un jeune athlète de 17 ans, Ousseini Idrissa Djibo, spécialiste du 400 mètres, dont l'un de nos envoyés spéciaux, Eric Mamrut, a recueilli les premières impressions.
C'est le rêve de tout athlète de participer aux Jeux Olympiques. Parce que le fait de participer aux Jeux Olympiques, on découvre beaucoup de choses. L'amitié, la tolérance, la solidarité entre les athlètes. Tout ça, le fait de participer aux Jeux Olympiques, c'est un grand honneur pour moi.
Qu'est-ce que vous avez envie de voir, de découvrir durant ces Jeux Olympiques ?
Oui, ce que j'ai envie de découvrir, c'est d'améliorer ma performance en première position, de faire beaucoup d'amitié avec les athlètes, y compris les 5 continents. J'aimerais voir les stars, oui. très important.
Comme qui, par exemple?
Comme Usain Bolt et Tyson Gay. Pour les autres sports aussi, je veux voir Phelps, le nageur, Neymar au niveau du football.
Sept jours dans le monde.
Les forces américaines ont mené mardi une série de raids en Libye contre le groupe État islamique, des frappes ciblées sur la région de Sirte, que le groupe armé contrôle encore et dont la coalition internationale voudrait le déloger. Le Pentagone affirme avoir mené ces opérations à la demande du gouvernement libyen d'Union nationale. Les explications d'Anne-Marie Capomaccio à Washington.
Le gouvernement d'Union nationale en Libye a annoncé les frappes de lundi à Sirte avant le Pentagone, qui a ensuite confirmé l'information, indiquant toutefois que ces raids américains contre le groupe État islamique avaient été lancés à la demande des Libyens et après approbation de Barack Obama, comme l'explique Peter Cook, porte-parole du Pentagone.
Le gouvernement d'Union nationale et ses troupes ont fait de très gros progrès contre le groupe État islamique. Nous les soutenons, ils nous ont spécifiquement demandé cette aide et notre assistance se limitera à des frappes dans cette région.
Le Pentagone ne donne aucun détail sur la durée de l'opération américaine en Libye, sinon que l'objectif est bien de reprendre la ville de Sirte à l'organisation terroriste. Le ministère de la Défense précise qu'aucun militaire américain n'est impliqué au sol dans ces frappes, dont les cibles sont désignées par les Libyens et vérifiées par le Pentagone. Les États-Unis, qui mènent des raids en Irak et en Syrie depuis 2 ans contre le groupe État islamique, n'étaient intervenus que 2 fois en Libye, en février pour bombarder un camp d'entraînement et en novembre pour atteindre un responsable de l'organisation.
Un attentat de très forte puissance a ciblé un hôtel pour étrangers à Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Cela s'est passé très tôt lundi matin. L'attaque au camion piégé a été menée par 3 hommes et a été revendiquée par les talibans. Les 3 combattants ont été tués à l'issue d'un siège qui aura duré plus de 7 heures. Le récit de Stéphane Lagarde.
C'est un immense cratère, 7 à 8 fois la taille d'un homme, qui fait le tour des réseaux sociaux ce lundi. Les silhouettes des enquêteurs en combinaison blanche semblent bien fragiles au pied de ce qu'il reste du mur d'enceinte de l'hôtel Northgate, frappé à 1h30 ce matin, heure locale, par un camion bourré d'explosifs. La force de la déflagration a secoué tout le quartier de Poulécharki sur la route de Bagram, un quartier où résident de nombreux employés des sociétés de sécurité étrangères basées à Kaboul. Le véhicule bélier aurait permis, selon le communiqué des talibans, de laisser entrer leurs combattants munis d'armes légères et de lance-roquettes à l'intérieur du complexe. L'hôtel, qui vante la haute protection apportée à ses hôtes, a déjà été la cible des talibans pendant l'été 2013. Même scénario, un camion piégé puis un commando qui pénètre dans l'enceinte. L'attaque avait alors tué 9 personnes. Cette fois encore, les forces spéciales ont mis plusieurs heures avant de déloger les assaillants retranchés et lourdement armés. Une attaque qui intervient une semaine après un double attentat suicide qui a fait 80 morts et 230 blessés dans la capitale afghane.
L'Arabie Saoudite a été retirée cette semaine de la liste noire des pays qui violent les droits des enfants lors des conflits armés, et cela en dépit de toutes les preuves de violation du droit international, notamment au Yémen, qui ont été présentées à l'ONU. Les pressions de Riyad sur le secrétaire général de l'Organisation internationale ont marché, souligne Cécile Coudriou d'Amnesty International au micro-téléphone de Carlotta Morteo.
D'un côté, il a quand même réaffirmé les conclusions du rapport de l'ONU. C'est quand même 60% des 785 enfants tués au Yémen l'an dernier qu'on peut imputer à cette coalition. Donc c'est énorme. On sait que ce sont des frappes aériennes illégales qui ont causé ces morts, hein, des frappes sur des écoles, des hôpitaux, des marchés, des mosquées, ce qui est tout à fait illégal, évidemment, au regard du droit international. Et on sait aussi que c'est une sorte de chantage aux subventions des programmes humanitaires de l'ONU fait par l'Arabie Saoudite, et surtout qu'il n'y a toujours pas d'enquête internationale. Je rappelle que l'Arabie Saoudite a réussi à faire pression sur l'ONU pour ne pas faire l'objet de cette enquête internationale, mais uniquement d'une enquête nationale, c'est-à-dire mise sur pied par le gouvernement yéménite. Et donc c'est une sorte de négociation, si vous voulez, entre l'Arabie Saoudite et Ban Ki-moon qui l'ont conduit à dire « bon, on va continuer à être très vigilant sur les résultats de ces enquêtes et les mesures que vous promettez de prendre ». Et c'est sans doute pour cela qu'ils n'ont pas réitéré cette demande qu'elle soit mise sur une liste noire par ailleurs.
Bernard Ourcade, on ménage Riyad, tandis que les talibans restent très actifs en Afghanistan. On a l'impression que l'organisation État islamique accapare seule toutes les attentions.
Effectivement, un des événements les plus importants de ces 40 dernières années, c'est l'émergence et le succès exceptionnel des monarchies pétrolières. En 1970, Abu Dhabi n'existait pas, le Qatar n'existait pas, ils ont été indépendants en 71. Et aujourd'hui, ce sont des pays les plus puissants du monde, peut-être, avec leur argent, avec leur capacité, et l'Arabie Saoudite, évidemment, qui en plus dirige le pèlerinage de la Mecque, est le pays le plus puissant dans cet ensemble. Et donc, c'est un phénomène nouveau. Et forcément, toute puissance nouvelle s'exprime à l'extérieur, à une politique internationale. Pas simplement des conquêtes territoriales, c'est pas cela, mais une zone d'influence. Économique, c'est bien connu. Les Saoudiens ou les Qataris achètent des entreprises en Europe, en France, des hôtels ou des clubs de foot. Mais c'est aussi une influence religieuse. Le wahhabisme, la secte religieuse qui est en Arabie Saoudite et au Qatar, s'est développée un peu partout dans le monde, donnant Al-Qaïda d'un côté, Daesh de l'autre, choses qui ne sont pas téléguidées par l'Arabie Saoudite, mais qui sont le fruit de cela. Et donc, on a aujourd'hui un problème important qui est que l'Arabie, effectivement, a une place assez qui pose question, disons, pour restons polis, tant en matière économique que politique, que de droits de l'homme. Mais nous, les pays occidentaux, avons été un peu embarqués dans la même galère que l'Arabie saoudite pendant ces 30 ans, l'Iran étant le diable, l'Iran étant la menace essentielle. Et on se retrouve aujourd'hui avec des amis saoudiens et monarchiques du Golfe un petit peu encombrants.
Et qui ont beaucoup d'argent.
Qui ont énormément d'argent, ce qui, évidemment, pose problème.
Une semaine d'actualité.
En Turquie, après les purges massives dans l'armée, la justice, l'enseignement et la presse, le président Erdogan cherche à consolider son ascendant. Il multiplie les numéros de charme envers les principaux partis d'opposition à travers une union nationale dont il espère bien tirer un maximum de profit, comme nous l'explique Alexandre Billette depuis Istanbul.
Le Premier ministre Binali Yildirim a rencontré lundi les chefs des deux principaux partis d'opposition, le CHP kémaliste et les ultranationalistes du MHP, un flirt politique qui se poursuit après le putsch raté du 15 juillet. Déjà, le président turc avait reçu les leaders de l'opposition la semaine dernière avec un objectif, les convaincre de voter en faveur de changements constitutionnels qui devraient être mis en place notamment dans la justice et les milieux du renseignement. Recep Tayyip Erdogan qui fait décidément tout pour maintenir cette union nationale face au mouvement du cerveau présumé du putsch raté, Fethullah Gülen. Le président a invité les chefs de parti au grand rassemblement dimanche prochain pour la démocratie et en mémoire aux victimes du putsch. Il a levé les accusations d'insultes au président qui pesaient contre les deux chefs de l'opposition. Dans cette ambiance d'unité nationale de circonstances, un grand absent, le HDP, la gauche pro-kurde, qui, bien que présente au Parlement, n'a pas eu droit aux considérations et aux invitations du président turc.
Un nouveau Premier ministre au Népal. Le Parlement a désigné mercredi un ancien rebelle maoïste, Pushpa Kamal Dahal, pour qui il s'agit d'un retour aux affaires depuis l'instauration de la démocratie en 2008. Juliette Guirbrand.
Pour Pushpa Kamal Dahal, c'est un retour aux affaires. L'ancien rebelle maoïste avait été le premier ministre élu du Népal en 2008 à l'abolition de la monarchie après plus de 10 ans de guerre civile, une époque dont il a gardé le surnom de Prachanda, le féroce. Il succède à Kapé Oli qui a démissionné le 24 juillet, juste avant le dépôt d'une motion de censure par les anciens rebelles, qui avaient d'ailleurs quitté la coalition gouvernementale il y a plus de 3 semaines. Le pays qui n'a jamais trouvé de stabilité politique depuis l'avènement de la démocratie, se remet en outre difficilement du séisme meurtrier de l'année dernière. C'est l'un des nombreux défis qui attendent le nouveau chef du gouvernement, assurer la continuité et la transparence de la reconstruction du pays. Il lui faudra aussi mener le processus de paix et de justice transitionnelle à son terme, et il faudra également trouver un accord avec les minorités sur la nouvelle constitution, qui est en discussion depuis des mois, et notamment avec la minorité Madhesi, qui demande une modification des frontières régionales. La crise avec cette population du sud du pays dure depuis presque 1 an, avec de nombreux affrontements et manifestations qui ont fait plusieurs dizaines de morts.
Plus d'une centaine de sportifs russes privés de Jeux Olympiques, c'est la conséquence du rapport extrêmement sévère du Canadien Richard McLaren, qui pointait un système de dopage à grande échelle mis en place par les autorités russes depuis 15 ans et qui touchait tous les sports. Mais cela veut dire aussi que près de 300 sportifs russes ont été autorisés à participer à ces Jeux de Rio, car le Comité international olympique a voulu dissocier le système mis en place par les autorités russes des athlètes eux-mêmes. Bernard Ourcade, comment analysez-vous ce qui se passe actuellement, non pas à Rio, mais en Turquie? Il y a manifestement une différence d'analyse entre les autorités locales, y compris d'ailleurs l'opposition, et aussi les chancelleries étrangères, notamment occidentales.
Tout le monde est un peu effrayé par la situation en Turquie, qui est fragilisée par cette situation. La Turquie est en guerre avec Daesh. La Turquie est la principale armée de l'OTAN dans la région. Et donc le fait que la moitié quasiment des officiers supérieurs aient été éliminés pose un problème de fiabilité de cette armée. Donc tout le monde est soucieux de cela, mais soucieux aussi du fait que la plupart des juges et des professeurs d'université ont été fermés. Donc il y a une fragilisation dramatique de ce pays. Et pour l'Iran, puisque je regarde des choses souvent venant d'Iran, c'est un peu un souci. L'Iran est un pays très conservateur, veut qu'autour de lui, les choses soient calmes, ne bougent pas. Et la Turquie était un pays voisin, avec qui ils sont pas toujours d'accord, mais qui est un atout important. Donc ils veulent garder de bonnes relations avec la Turquie. Et de voir qu'aujourd'hui, la Turquie va, on ne sait pas trop où, inquiète beaucoup les Iraniens, parce que la faiblesse de la Turquie, dont témoigne ce putsch, et la réaction surtout après ce putsch militaire, fait que les Iraniens se demandent quel sera l'avenir de la Turquie. Ils ont besoin de la Turquie pour équilibrer l'Arabie Saoudite notamment, qui est le principal problème pour les Iraniens.
Alors justement, dans votre livre « Géopolitique de l'Iran, les défis d'une renaissance » publié chez Armand Collin, vous écrivez que l'Iran se voit comme une île.
Oui, les Iraniens. L'Iran actuel était fait au XVIe siècle, un peu contre l'Empire ottoman des Turcs, face aux Russes d'un côté et aux Anglais, l'Empire des Indes d'autre côté. Et les Iraniens sont des Aryens, ce ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des Sémites, ce ne sont pas des Turcs, ce ne sont pas des Indiens. Ils sont un peu à part, un peu comme les Anglais en Europe. Et ils s'estiment au-dessus de tout, un peu comme nos chers amis britanniques. Et donc ils disent, nous sommes musulmans, mais c'est le seul pays officiellement chiite dans le monde musulman. Et donc les Iraniens sont à part. Et ils se considèrent un peu comme une île, finalement, au plateau, entouré de murailles. Et si le niveau des mers montait, j'espère qu'il ne montera pas trop rapidement, entre les plaines de la Caspienne, l'Indus de l'autre côté et la Mésopotamie, le Golfe Persique, l'Iran serait sur un plateau, serait sur une île. Et donc, politiquement, c'est très important. L'Iran, un peu comme Israël, d'ailleurs, se considère comme un peu à part, un pays à part, entouré de forces hostiles. Ça tourne quelquefois la paranoïa chez les Iraniens. Mais cet aspect insulaire est très important pour comprendre la géopolitique du pays.
Et justement, vous donnez comme sous-titre à votre livre les défis de la Renaissance. La Renaissance, on l'a vu en début d'émission, à quoi ça correspondait. Mais les défis, quels sont-ils pour ce pays?
Il faut bien voir que l'Iran a eu sur ses frontières des guerres meurtrières, sur toutes ses frontières. Guerre Irak-Iran, 8 ans de guerre, la plus longue du XXe siècle. La guerre entre Azerbaïdjan et Arménie, après l'effondrement de l'Union soviétique. La guerre des talibans et d'Afghanistan. La guerre de Koweït avec l'Irak. La guerre de la drogue qui touche un peu tout le monde. Autrement dit, ce pays est celui au monde qui a eu le plus de guerres sur ses frontières. On imagine donc que ce pays est un peu craintif et a besoin de stabilité à l'extérieur. Alors tout le monde dit, regardez, les Iraniens sont présents à Herat, à Bagdad, à Tbilissi, dans le Golfe Persique, ils sont partout, c'est vraiment la pieuvre. Non, regardons les choses de façon plus politique. L'Iran a toujours eu des buffer zones, des zones tampons autour de son territoire. Et depuis toujours, l'Iran regarde un peu ce qui se passe chez les voisins. Et donc, il ne faut pas confondre le nationalisme iranien, qui est très fort, paranoïa quelquefois, et l'impérialisme. L'Iran regarde sur ses frontières et un peu au-delà, parce qu'il est soucieux de son territoire et non pas avec une ambition impériale.
Mais quel est le défi le plus difficile à atteindre? Est-ce que c'est un défi intérieur ou est-ce que c'est le défi régional?
C'est le fait que les choses ont changé. Je lisais tout à l'heure, un des éléments les plus importants de l'histoire contemporaine, c'est l'émergence des monarchies pétrolières. Autrement dit, aujourd'hui, la Turquie, c'est grosso modo comme avant. Saddam Hussein est tombé, les talibans, ça a toujours été plus ou moins pareil. Mais les monarchies pétrolières, c'est un acteur politique exceptionnellement fort et puissant. Et donc l'Iran se rend compte aujourd'hui que ces pays-là ont intégré la mondialisation, pas l'Iran, ont un rayonnement international dans le domaine islamique exceptionnel, c'est pas l'Iran, des relations internationales avec les pays occidentaux, ce n'est pas l'Iran. Et donc l'Iran a, avec les monarchies pétrolières, un objet, un problème politique majeur et qui n'est pas facile à résoudre.
Pourtant, l'Iran est aussi un pays producteur d'hydrocarbures, notamment du gaz.
Oui, mais le gaz, pour l'instant, l'Iran importe du gaz parce qu'il n'est pas capable de produire assez de gaz. Il a des réserves gigantesques. L'Iran a un potentiel exceptionnel. 4 millions d'habitants, une bonne bourgeoisie moyenne éduquée, une bonne expérience de ce qu'est l'islam politique, etc. Donc, tous les feux sont verts pour l'avenir de l'Iran. Mais concrètement, aujourd'hui, la situation est extrêmement difficile, pétrole ou pas pétrole.
Bernard Ourcade, nous marquons une pause pour écouter les informations de ces dernières heures. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
Mon ami !
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Nous sommes en compagnie de Bernard Ourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, pour son livre « Géopolitique de l'Iran, les défis d'une renaissance » publié dans la collection « Perspectives géopolitiques » chez Armand Collin. Un ouvrage dans lequel Bernard Ourcade vous énoncez et analysez les différents défis auxquels Téhéran semble confronté aujourd'hui, défis intérieurs face aux revendications de sa population, défis régionaux, notamment dans la confrontation avec le monde sunnite emmené par l'Arabie Saoudite, défis mondiaux dans sa reconquête d'un statut d'État respecté. Alors sur ce dernier point, Bernard Ourcade, comment, selon vous, l'Iran peut-il redevenir un acteur respecté de la vie politique, économique et culturelle dans le monde ?
Il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail parce que pendant 37 ans, l'Iran était un peu en conflit avec le reste du monde, non pas de la faute de l'Iran uniquement, mais parce que tout le monde aussi tombait sur le dos de l'Iran. Mais le résultat est là. Alors que la mondialisation se développait, du point de vue économique, politique, culturel, l'Iran était en dehors de cela, était bloqué dans son île, dans son bunker, avec l'hostilité mondiale contre l'Iran, pour reprendre le terme utilisé à Téhéran. Et donc, il faut reconstruire tout. En matière de droits de l'homme, par exemple, en matière de relations internationales, il est important que l'Iran comprenne que le monde a évolué depuis 37 ans en matière de droits de l'homme et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en prétextant qu'il y a des frontières nationales. Donc, il y a beaucoup d'arrestations en Iran. Beaucoup d'amis, de gens, de collègues, de binationaux sont arrêtés maintenant que les portes s'ouvrent. De ce point de vue-là, les gens qui sont opposés à l'ouverture sont encore plus radicaux que d'habitude. Des progrès à faire du point de vue économique. L'Iran n'a pas les structures économiques adaptées au monde moderne. L'Iran n'a pas de système bancaire adapté au monde moderne. L'Iran n'a pas d'entreprise internationale publiant des rapports d'activité, des rapports financiers qui permettraient à une entreprise internationale de faire un accord. Il faut tout reprendre à zéro. L'Iran est resté enfermé du point de vue juridique, du point de vue économique. L'Iran a besoin de faire beaucoup d'efforts aussi sur le plan de sa communication, je dirais. Autant les monarchies pétrolières, Al Jazeera est une bonne chaîne de télévision qui a une efficacité remarquable, l'Iran n'a pas l'équivalent. Et donc, du point de vue de la communication, l'Iran, on ne serre pas la main des femmes, on met un tchador, il y a une coupure culturelle importante. Il faut que l'Iran comprenne que les choses ont évolué. Et du point de vue politique, l'opposition aux États-Unis, qui était un des dogmes, « Abat l'Amérique », était le slogan de base, il faut quand même tourner la page. Elle a commencé à être tournée le 14 juillet avec l'accord sur le nucléaire, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, les relations irano-américaines, on parlera peut-être, sont loin d'être optimales.
Oui, le 14 juillet 2015. Alors justement, la Cour suprême des États-Unis a récemment refusé de restituer 2 milliards de dollars de dépôts à l'Iran. Et en réaction, le président Rouhani aurait mandaté la branche cyber des services de renseignement iraniens pour mener des attaques informatiques contre les États-Unis, notamment contre des institutions bancaire. C'est une information donnée évidemment et relayée par les médias du Golfe, saoudiens et koweïtiens notamment. Alors si on oublie les arrière-pensées, cette information ne montre-t-elle pas les limites de la situation actuelle pour l'Iran ?
Il faut être très prudent en matière d'informations comme ça ponctuelles disant que tout le monde fait la guerre à tout le monde et en ressortant des vieux dossiers qui sont périmés. Mais il est incontestable que l'accord de 14 juillet 2015 sur le nucléaire n'est pas respecté. Non pas dans sa lettre, parce que les Iraniens ont effectivement arrêté leur programme nucléaire et que, du point de vue international, les sanctions sur le nucléaire sont levées. Mais aux États-Unis, il y avait des sanctions sur les droits de l'homme, les sanctions concernant le Hezbollah, qui entre nous, en France, n'est pas une organisation terroriste, mais une organisation gouvernementale du Liban, donc de précision différente. Et donc, il y a aux États-Unis des sanctions importantes. Et la BNP française est là bien pour en témoigner. Aucune compagnie internationale ne peut travailler avec l'Iran parce qu'ils ont des intérêts aux États-Unis. Et s'ils vendent un stylo bille à l'Iran officiellement, immédiatement, l'OFAC, l'Office américain du contrôle des changes, va tomber dessus et leur interdire leur activité économique aux États-Unis. Autrement dit, les États-Unis bloquent toute renaissance économique de l'Iran. Les Iraniens sont furieux. Parce que Rouhani avait donné comme gage, si on trouve une solution sur le nucléaire, qui est un problème politique important en Iran, on aura une ouverture économique. Et ça fait un an et rien n'arrive. Et donc politiquement, les partisans de l'ouverture, de la réforme en Iran sont fragilisés aujourd'hui par le fait qu'aux États-Unis, il y a un blocage. Un blocage qui tient au fait que beaucoup de forces politiques américaines, démocrates d'ailleurs comme républicaines, sont opposées plus ou moins ou craignent le retour de l'Iran parce que c'est Israël qui n'est pas d'accord, l'Arabie Saoudite qui n'est pas d'accord. Et donc aux États-Unis, on trouve des gens qui bloquent tout en protestant évidemment de leur bonne foi.
Est-ce que les élections américaines pourraient débloquer la situation au mois de novembre ?
C'est pas évident. Parce que, bon, on ne parle pas de Donald Trump qui veut déchirer l'accord sur le nucléaire et faire la guerre. Mais Hillary Clinton avait une position très anti-iranienne et donc elle est extrêmement ferme. Cela dit, le réalisme est là. Et surtout, l'avenir peut venir des entreprises. Boeing a envie de travailler avec l'Iran. et donc les pétroliers aussi. Tout le monde a envie d'y retourner parce que c'est un pays important, un pays d'avenir. Et donc les entreprises, peut-être, seront le lobby le plus important qui permettra d'avancer.
Une semaine d'actualité.
Arrêtons-nous maintenant sur l'actualité en France avec les obsèques mardi à Rouen du père Hamel, tué la semaine dernière par un jeune islamiste radicalisé en pleine célébration de la messe en l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Émotion et recueillement ont marqué cette cérémonie à laquelle ont assisté plus de 2000 personnes, dont le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, mais aussi des anonymes, comme cette femme rencontrée dans la foule par notre reporter.
C'est quelqu'un que je rencontrais, qui était au service de tous. Un homme très bon, généreux, que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour les musulmans. Il faisait sans difficulté la même chose. Et voilà, pour rien au monde, j'aurais voulu manquer son inhumation. Je ne pourrais pas ne pas être venue, quoi. J'aurais eu de la peine s'il était parti d'une maladie, mais là, les conditions dans lesquelles il est parti sont insurmontables. J'aurais eu de la peine pour n'importe quel prêtre de n'importe quelle commune de France, mais là, c'est renforcé quand on connaît la générosité, la bonté de ce prêtre. C'est difficile d'avancer, quoi.
Aujourd'hui, comment vous vous sentez ?
Je suis contente d'être là, comme j'étais très contente d'avoir été au rassemblement qu'il y a eu jeudi dernier. Pour moi, c'est très important d'être là.
À Lyon, le cardinal Barbarin ne sera pas finalement poursuivi. Lundi, le procureur de la République a décidé de classer sans suite l'enquête préliminaire ouverte en février pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans commise par un prêtre sur d'anciens scouts de la région lyonnaise il y a une trentaine d'années. Le parquet estime que le délit n'est pas suffisamment caractérisé et c'est une déception pour les plaignants. Antoine Geoffin.
L'abandon des poursuites contre le cardinal Barbarin a provoqué la déception et le choc des victimes présumées. Combien de temps les citoyens français vont-ils accepter que des prêtres pédophiles soient en lien avec des enfants ? S'interroge l'une d'entre elles. Allusion directe au fait que le père Prénat, présumé pédophile, soit resté jusqu'à l'année dernière au contact d'enfants à qui il enseignait le catéchisme. Et pour les victimes, c'est Monseigneur Barbarin qui est responsable de cette situation. Arrivé en 2002 à la tête du diocèse de Lyon, l'archevêque n'a relevé de ses fonctions le père Prénat qu'en 2015. Pour les six plaignants, le cardinal Barbarin a passé sous silence ses agressions sexuelles. Le primat des Gaules a reconnu avoir fait des erreurs dans la gestion et la nomination de certains prêtres, mais jamais, dit-il, il n'a couvert le moindre acte de pédophilie. Aujourd'hui, au vu du classement sans suite de l'enquête visant l'archevêque, certaines victimes du père Prénat pensent à porter plainte afin, je cite, de pouvoir instruire le dossier de façon sérieuse.
Conséquence ou pas du vote en faveur du Brexit, la justice britannique complique un peu plus les démarches pour les migrants qui attendent à Calais leur passage outre-Manche. Le gouvernement vient en effet de gagner son recours contre une décision d'un tribunal londonien qui avait autorisé 4 jeunes Syriens mineurs à rejoindre leur famille en Angleterre. Une situation qui inquiète les associations de défense des réfugiés comme Clémentine Bray de Médecins du Monde, jointe au téléphone par Anna Picarec.
Évidemment, pour nous, cette décision est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que pour les mineurs non accompagnés, les démarches vont être compliquées. La Cour d'appel, là, rappelle qu'il faut que ces mineurs déposent l'asile en France et qu'ensuite leur demande d'asile en France soit examinée pour savoir si c'est bien la France qui est responsable ou si c'est pas l'Angleterre. Et c'est ces procédures-là qui sont extrêmement longues. Et ce qu'on craint, c'est que les mineurs ne vont pas attendre tous ces mois-là, et que du coup, ils continuent à prendre des risques pour rejoindre leur famille de manière illégale, plus rapide parfois quand ça fonctionne, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereuse. Et il y a de plus en plus de décès en tentant de traverser, parce que plus on ferme les frontières, plus c'est dangereux de traverser, plus ça coûte de l'argent et plus on doit remettre sa vie entre les mains de trafiquants et de passeurs. Il faut que et la France et l'Angleterre simplifient au maximum les démarches de réunification familiale, particulièrement à l'égard des publics vulnérables que sont les mineurs non accompagnés.
Bernard Ourcade, cette question des migrants secoue, on l'entend, l'ensemble des pays européens et pas seulement la Grande-Bretagne. Alors c'est aussi une affaire qui concerne les pays limitrophes des zones de guerre autour de la Syrie et d'Irak, notamment, j'imagine, l'Iran.
Oui, la question des migrations, vous parliez tout à l'heure du Népal par exemple, le nombre de travailleurs népalais en Arabie Saoudite dans les pays du Golfe est énorme et ça pose un problème grave. Les problèmes des migrations, c'est la mondialisation, ça va dans tous les sens et les causes sont économiques, sont politiques, culturelles, militaire. Et donc, c'est un phénomène qui n'épargne aucun pays. L'Iran, puisqu'on parlait d'Iran tout à l'heure, a été touché directement. La guerre d'Afghanistan a mis en Iran près de 3 millions de réfugiés afghans. L'Iran était un des pays du monde de moment, plus que le Pakistan même, recevant le plus grand nombre de réfugiés, sans pour autant que ça soit une face à la une des journaux. Autrement dit, ces questions de migration sont, du point de vue international, une vraie question. Les frontières sont en train d'être abolies, mais de nouvelles frontières apparaissent, et les migrants vont d'un côté à l'autre, en espérant que les frontières les sauveront. Or, elles ne les sauvent pas, on vient de voir sur le sujet que vous venez de montrer. Donc c'est une vraie question internationale. Et maintenant, le fait que la culture mondiale s'est de plus en plus développée, maintenant les gens savent lire et écrire, parlent les langues internationales, donc ont des capacités à migrer beaucoup plus fortes. Maintenant, les médias montrent que la vie à l'extérieur est peut-être meilleure que chez soi. Et donc tout ça, c'est une réalité qu'il faut gérer. Et donc de voir les frontières, chaque petit pays s'est un petit peu dépassé.
Et ce qui ne suit pas, ce sont les législations, notamment locales.
Tout à fait, parce que chaque pays encore a un système de politique qui est local, avec des élections qui sont locales, ne votent que les gens locaux. On leur demande des protections, donc ils ont des mesures policières, ils ont des mesures de militaires, et ceci, c'est la ligne Maginot. La ligne Maginot, c'est bien beau, mais ça n'a pas empêché Hitler d'arriver en France.
Une semaine d'actualité.
Et l'Afrique maintenant avec, on le rappelait dans la première partie, ces frappes américaines en Libye contre les positions tenues par l'organisation État islamique dans la région de Sirte. Parmi les réactions en Afrique, celle des habitants de la Tunisie voisine, notamment de la région frontalière, partagée entre soutien et inquiétude, comme le souligne ce reportage de Jian Bergaoui.
C'est inquiétant bien entendu, parce que je considère ça comme une invasion. La déstabilisation en Tunisie, elle existe d'ores et déjà, mais ça va empirer la situation, je pense.
Quelque part à l'intérieur, je me sens plutôt pour les frappes en Libye, parce que de toute façon, si on ne fait rien, c'est sûr que ce n'est pas bon. On peut stopper plusieurs cellules en très peu de temps, ce qui fait qu'il se peut que c'est pour le bien de la Tunisie aussi.
Avant ça, il faut penser les répercussions de la frappe, dans le sens qu'il y a des voisins, des riverains, pour que... Ça se déborde pas, pourvu que ça ne se déborde pas. Si ça déborde, on va subir les conséquences.
À mon avis, ça ne peut que compliquer les choses en Libye, vu que déjà en Libye, il y a plus que la moyenne de 4 à 5 armes par habitant, déjà. Donc la Libye, déjà, elle est en état de guerre depuis des années. Et à mon avis, l'intervention étrangère ne peut compliquer les choses.
Un nouvel attentat attribué aux islamistes Chebab a frappé Mogadiscio, la capitale somalienne, dimanche. C'est le quartier général du département des enquêtes criminelles qui était visé. Deux véhicules ont d'abord explosé à l'intérieur du bâtiment, tuant 5 civils et un policier. Puis 5 hommes ont tenté de pénétrer dans le bâtiment avant d'être abattus. Selon le ministre somalien de la Sécurité, Abdissarak Omar Mohamed, il est toujours très difficile d'empêcher ce type d'attaque, même si les forces de sécurité y étaient préparées. Propos recueillis par Florence Maurice.
C'est lié à la nature de leurs actions. C'est une guerre asymétrique, c'est une guerre urbaine. C'est très difficile. On ne peut pas les bombarder dans des zones civiles. On ne peut pas agir comme eux. Il y a des lois qui nous en empêchent. Ils se cachent au sein de la population civile et n'agissent pas au grand jour, mais préparent leurs attaques dans la plus grande discrétion. Comme cela arrive aussi dans de nombreux pays occidentaux. C'est arrivé à Bruxelles, c'est arrivé à Paris, à Nice, à Orlando. Et cela peut arriver n'importe où. C'est très difficile d'empêcher d'agir quelqu'un qui a décidé de mourir. Mais si on mène un effort collectif, avec le soutien de la population, on peut limiter les dégâts et tenir ces terroristes en échec.
Au Nigeria, une commission d'enquête mise en place par le gouvernement confirme le massacre par l'armée de 347 membres d'une secte chiite en décembre dernier, lors d'une manifestation à Kaduna, au nord du pays. L'armée nigériane avait donné l'assaut contre les militants du mouvement islamique du Nigeria, un groupe pro-iranien. Fabrice Wimo.
Les soldats ont utilisé une force excessive. C'est ce qui ressort du rapport publié par la commission d'enquête sur les affrontements qui ont eu lieu du 12 au 14 décembre 2015 au Nigeria. L'armée avait réprimé une manifestation du mouvement islamique du Nigeria, déclenchant ainsi 2 jours de révolte. Le MIN, qui milite pour l'instauration d'un régime à l'iranienne dans l'état de Kaduna, avait attaqué un convoi du chef d'état-major Tukur Yusuf Buratai. Des affrontements avaient alors éclaté entre les soldats et le MIN, faisant un nombre jusqu'ici indéterminé de victimes. En avril, Amnesty International avait déjà accusé l'armée d'avoir tué plus de 350 musulmans chiites, d'avoir enterré les corps dans une fosse commune et d'avoir détruit les preuves. Le rapport recense en tout 347 chiites tués, auxquels il faut rajouter un membre du MIN mort en détention et un soldat tué. La commission d'enquête encourage la justice à identifier les responsables de ce massacre. Des centaines de partisans du MIN sont toujours portés disparus, présumés morts ou emprisonnés. Une douzaine d'entre eux pourraient être condamnés à mort pour conspiration contre l'État et pour avoir tué un membre de l'armée. L'armée nigériane, de son côté, maintient que ses troupes ont réagi de manière appropriée et nie les accusations de massacre.
Bernard Ourcade, on connaissait la secte sunnite Boko Haram, qui a fait allégeance à l'État islamique récemment et qui est partagée dans sa direction actuellement. On avait oublié qu'il y avait aussi ce petit groupe chiite dont le chef Ibrahim al-Zarzaki est un ancien membre des Frères musulmans converti au chiisme après des voyages en Iran, et c'est un admirateur apparemment de l'imam Khomeini. Cette secte est-elle soutenue par l'Iran ?
L'Iran a une politique de soutien aux petits groupes chiites, un petit peu comme les Français soutenaient les chrétiens de l'Empire ottoman. Et donc, dès qu'il y a un petit groupe chiite, l'Iran soutient évidemment ces petites minorités à droite à gauche. Et la révolution islamique, après 79, a développé cette politique. Et l'Iran a essayé d'exporter la révolution, et donc de convertir au chiisme, notamment au Nigeria, mais au Mali, au Niger, au Sénégal surtout, au Soudan. Mais ces petits groupes sont restés très isolés. Très isolés parce qu'ils ont été contrés par d'autres groupes sunnites beaucoup plus forts. Et on voit qu'aujourd'hui, au Nigeria par exemple, où l'islam politique, qu'il soit sunnite ou chiite, est un facteur d'opposition au gouvernement central du sud du pays, ce problème n'est pas nouveau. Et donc dans les compétitions locales, le fait que Boko Haram est une puissance importante que l'on connaît, obligeant en quelque sorte les petits groupes chiites à dire « mais nous aussi nous sommes capables d'avoir une action politique », c'est un petit groupe. Et donc, ceci favorise la crise, favorise les conflits, favorise le drame que l'on a vu, dont vous venez de parler. Mais ce qui est important, je crois, de montrer, c'est l'échelle des choses. Boko Haram n'est pas comparable à ce petit groupe chiite qui a été écrasé. L'Iran ne fait pas le poids par rapport à l'immensité du monde sunnite qui est depuis longtemps soutenu par l'Arabie Saoudite et ses moyens. Autrement dit, il y a d'un côté le réseau immense de l'Arabie Saoudite qui est efficace, directement ou indirectement, et les petits territoires, les petits satellites iraniens qui sont des isolats, des petites îles, des archipels ici et là, qui, ma foi, se font souvent massacrer, mais ont très peu d'influence.
Ce sont deux façons de faire qui sont assez proches, mais qui n'ont pas les mêmes résultats.
Oui, la méthode est différente. L'Iran, on en parlait tout à l'heure, est une nation, est un territoire. Et donc l'Iran a besoin d'une population localisée quelque part et de défendre ce territoire. L'Arabie Saoudite n'est pas un territoire, c'est pas une nation l'Arabie Saoudite, c'est un réseau, c'est une zone d'influence, c'est l'islam en général, et c'est le pétrole qui est vendu partout. Donc c'est deux façons de travailler différentes. L'Iran contrôle tout, cherche à tout contrôler, c'est un état jacobin, centralisé, et donc ils regardent un peu ce qui se passe. Ils vont quelquefois aller un peu loin, ils vont soutenir efficacement un petit groupe terroriste, un petit groupe, mais ça marche assez mal parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. L'Arabie Saoudite est beaucoup plus efficace, ce n'est pas d'abord le roi d'Arabie qui décide, ce sont des oulémas, ce sont des fondations religieuses. Mais c'est un réseau assez souple, efficace, qui sous-traite en quelque sorte et laisse les petits groupes locaux se développer. Ça s'appelle Al-Qaïda, ça s'appelle Boko Haram, ça s'appelle Daesh, ça peut changer en fonction des situations. C'est deux systèmes différents.
Sept jours en Afrique.
Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées dimanche dernier dans le Stade des Martyrs à Kinshasa. Il s'agissait du premier meeting du rassemblement de l'opposition, le premier également pour Étienne Tshisekedi depuis 2011. Le président de l'UDPS ne s'était pas exprimé devant une telle foule de partisans depuis la dernière élection présidentielle. Sonia Rollet.
Un discours qui commence par une minute de silence pour tous ceux qui souffrent, et notamment à l'est du pays. Pas respecté tant l'excitation de ses partisans était grande. Après un début un peu hésitant, Étienne Tshisekedi s'est amusé avec la foule, disant à propos de son retour triomphal que certaines radios avaient jugé qu'il n'y avait plus besoin d'élection, que c'était un plébiscite. Au contraire, dans son discours, Étienne Tshisekedi a insisté sur la convocation du corps électoral fin septembre par la CENI, sous peine, dit-il, de haute trahison. L'opposant historique a également parlé d'un préavis fixé au 19 décembre 2017. 2016. Message adressé à Joseph Kabila, le chef de l'État qui terminera officiellement à cette date son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Comme à la présidence de la République, on ne respecte pas les règles fixées par la Constitution. Il faudra que vous tous, vous vous preniez en charge, a insisté Étienne Tshisekedi, précisant qu'il ne fallait pas attendre d'ingérence étrangère. Pour ce qui est du dialogue, le vieil opposant a posé des conditions préalables, entre autres libération de tous les prisonniers politiques et remplacement du facilitateur. L'ex-premier ministre togolais Edem Kodjo s'est retrouvé taxé par l'opposant d'être, je cite, un traître, un grand kabyliste.
La Tunisie a un nouveau Premier ministre. Le pays n'aura attendu que 4 jours pour connaître le nom du successeur d'Habib Essid, destitué samedi dernier. Il s'agit de Youssef Chahed, 40 ans, qui était jusque-là ministre des Affaires locales et qui dispose d'un mois pour former un gouvernement d'union nationale, comme le lui a demandé le président Essebsi. Son portrait avec Laura Martel.
Youssef Chahed est un jeune politicien dans les deux sens du terme. Par son âge d'abord, 40 ans, qui tranche avec une classe dirigeante majoritairement plus âgée. Mais jeune aussi dans l'engagement politique. Ce n'est qu'après la chute de Ben Ali en 2011 que cet ingénieur agronome, qui a fait valoir son expertise y compris aux États-Unis et en Europe, choisit de rentrer en politique. Après avoir participé à la création de petits partis dans le bouillonnement post-révolutionnaire, il rejoint en 2013 Nida Tounes, le parti créé par le président Essebsi, dont il gagne rapidement la confiance. Après un rôle de médiateur au sein du parti, il est nommé secrétaire d'État à la pêche en 2015, puis ministre des Affaires locales en janvier dernier. Décrit comme intègre et travailleur par ses proches, Youssef Chahed revendique sa jeunesse comme une force. Il a d'ailleurs promis d'intégrer plus de jeunes au sein de son gouvernement d'union nationale, parce que nous croyons en la capacité des jeunes à changer la situation, dit-il. Mais Youssef Chahed est déjà l'objet d'une controverse. À cause de lointains liens de parenté par alliance avec Béjik et Essebsi, certains voient dans sa nomination une volonté de la présidence de mettre la main sur l'ensemble de l'exécutif.
Des élections en Afrique du Sud, un scrutin municipal organisé mercredi dans tout le pays. Après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote, l'ANC ne recueille que 54% des voix, un recul historique. Jamais depuis son arrivée au pouvoir, lors du premier scrutin démocratique en 1994, le parti de Nelson Mandela n'avait obtenu un score aussi faible. Bernard Ourcade, parlons de votre livre « Géopolitique de l'Iran ». Sur le plan régional, l'Iran fait face à une très grande suspicion, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment de la part de l'Arabie saoudite et des pays du Golfe. On peut même dire de l'ensemble du monde sunnite. Est-ce donc une question religieuse essentiellement ?
Je ne crois pas. On ne peut pas expliquer la Seconde Guerre mondiale par une opposition de catholiques et protestants entre Allemands et Français. Ces questions culturelles existent, l'héritage ça existe. L'Iran est le seul pays chiite au monde. Mais voir les choses du point de vue religieux, c'est s'imaginer que ces pays, comme on dit, sont des pays un peu exotiques qui ne fonctionnent pas comme les autres. Non, l'Iran ou le Brésil ou le Guatemala ou la Chine fonctionnent comme n'importe quel pays. Il y a des questions religieuses, ethniques, culturelles, économiques, politiques. Et ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas de se cacher derrière la religion, même si ça... ça compte, c'est de voir que l'Iran est un objet politique nouveau qui a émergé. Il y a 40 ans, l'Iran n'était pas une république. Maintenant, c'est une république. C'est pas une démocratie, mais c'est une république. En face, on a une monarchie. C'est un autre système politique. On a des pays pétroliers de chaque côté, donc ils ont des intérêts communs. Ils ont d'un côté une alliance qui n'est plus américaine, qui est plutôt indépendante, l'Iran, qui regarde plutôt côté Russie, alors que l'autre côté du Golfe, en Arabie, c'est plutôt du côté États-Unis. Donc, on a finalement des pays complexes. Et regarder les choses du point de vue religieux uniquement, ou du point de vue ethnique, arabe contre persan, et je crois une analyse est non seulement erronée, mais je dirais presque un peu criminelle, parce que on ne regarde pas les choses sérieusement.
Alors sur le plan des défis dont vous parlez dans votre livre, il y a certainement le défi de l'intérieur, de la société. Quel est-il ce défi ? Que doit faire l'Iran aujourd'hui pour renaître ?
Il faut bien voir que la population iranienne d'aujourd'hui, qui a 25-45 ans, n'a pas connu la révolution islamique, ils en est un peu après, et donc on a une nouvelle population qui est là, qui est ouverte à l'international, et mesure un peu que l'international, elle ne vit pas, alors qu'elle a un potentiel très fort pour cela. Il y a en Iran une bourgeoisie moyenne nouvelle, que le Shah avait créée, qui a fait la révolution 79, et qui n'a pas réussi sa révolution, comme les printemps arabes, qui aujourd'hui disent, voilà, j'ai la capacité de le faire. Et même les islamiques au pouvoir ont la capacité maintenant de négocier, d'évoluer. Ils ont signé le contrat du 14 juillet dernier 2015 sur le nucléaire. Autrement dit, l'Iran sent qu'il a la possibilité d'avancer. Mais toute la question, c'est qu'il y a en Iran des gens qui ne veulent pas, qui sont conservateurs, qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui sont préfets, sous-préfets, directeurs de la police, et eux, ils bloquent. Et donc on a actuellement une opposition très forte en Iran entre une extrême droite très radicale qui possède encore l'appareil d'État, des réformateurs qui voudraient avancer, et au milieu 50% de députés qui sont un peu vagues et attendent un peu voir d'où vient le vent.
Dont peut-être le président Rouhani qui manœuvre finalement assez bien en ce moment hein, pour conduire le pays vers plus d'ouverture.
Tout à fait. On a vu aux élections législatives du mois de printemps dernier qu'à Téhéran en particulier, les réformateurs n'étaient très peu nombreux, mais un grand nombre de députés centristes, je dirais, ont bien marqué leur territoire et ont été élus massivement, éliminant tous les conservateurs de Téhéran. Ce n'est pas comme ça partout, mais le président Rouhani, justement, prêche la modération, essayant de dire, regardez, tout n'est pas parfait dans ce pays, essayons de prendre ce qu'il y a de positif et avançons.
Est-ce que la clé, peut-être, de l'avenir de l'Iran, ce n'est pas la succession de Ali Khamenei ?
On le dit, mais un changement d'une personne ne change pas un système. En Iran, il y a un système qui sont les gens qui ont hérité la guerre Irak-Iran. Les anciens combattants ont dirigé la France, c'est la Première Guerre mondiale jusqu'en 1950, et ceux de la Résistance jusqu'à il y a encore 10 ans. En Iran, le gouvernement, les institutions sont tenues par les anciens de la guerre Irak-Iran, 80-88. Et donc ça, c'est long. Et donc que le guide soit M. Khamenei ou un autre est une autre question. Regardons les choses de fond.
Merci Bernard Ourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, ancien directeur de l'Institut français de recherche sur l'Iran et de l'équipe de recherche Monde iranien. Je renvoie à votre livre « Géopolitique de l'Iran, les défis d'une renaissance » publié chez Armand Collin dans la collection « Perspectives géopolitiques ». Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky. Retrouvez aussi l'émission pour la podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr ou à la page « Une semaine d'actualité » sur Facebook. Bon week-end, bonne semaine.
En sol majeur.